BW. Vue d'Allemagne.
Quel effet la perte d'objets du patrimoine a-t-elle eu sur l'identité et la mémoire dans les anciens pays colonisés ? Une exposition menée parallèlement au Kenya et en Allemagne permet de mieux comprendre les revendications de restitution. Dans la deuxième partie de ce magazine, reportage dans le sud de l'Italie, où le décrochage scolaire s'est aggravé depuis l'apparition du coronavirus, mais des enseignants de rue tentent de remettre les élèves sur le chemin de l'école. Vous écoutez Vue d'Allemagne, Anne Letouzé au micro. Willkommen et bienvenue. Jadis, les Pokomo du Kenya honoraient un dieu représenté sur terre par un tambour sacré, le Ngadji. Ce tambour était au cœur de la vie spirituelle de cette communauté installée sur les rives du fleuve Tana. Mais en 1902, les colons britanniques ont dérobé le Ngadji par la force. 6 ans plus tard, il atterrissait au British Museum, où il se trouve encore aujourd'hui. Pour les Pokomo et leurs descendants, la disparition de cet objet sacré a été une tragédie, comme l'explique Emmanuel Nsimba, président du Conseil des Anciens.
Les gens ne pouvaient pas faire une cérémonie sans le Ngadji. Les enfants ne pouvaient pas mal se conduire sous l'œil des anciens du Kijo. Aujourd'hui, les enfants ne connaissent plus les bonnes manières. Ils ne suivent plus les règles, car sans le Ngadji, il n'y a pas de tradition. Notre tradition est liée au Ngadji.
À l'instar du Ngadji, plus de 90% du patrimoine culturel d'Afrique subsaharienne se trouve encore dans les musées occidentaux, selon le rapport remis par Bénédicte Savoie et Felwine Sarr au président français Emmanuel Macron en 2017. Depuis ce rapport, le débat sur la restitution des objets culturels africains a atteint le grand public. Il a pris une telle ampleur en Allemagne que le gouvernement a annoncé en avril, à la surprise générale, qu'il comptait rendre au Nigeria ses bronzes du Bénin, des objets dérobés par les troupes coloniales au XIXe siècle à Benin City, et réclamé depuis par le Nigeria. Le débat prend de l'ampleur également sur le continent africain. En mars 2021, le Musée national du Kenya a lancé une série d'expositions intitulée « Invisible Inventories », en français « Les inventaires invisibles ». Un projet mené en coopération avec les musées ethnographiques de Cologne et de Francfort, ainsi que l'Institut Goethe. L'objectif de cette première exposition est de faire connaître au public kényan les objets du patrimoine culturel dispersés à travers le monde. Mais comment montrer des objets absents ? Jim Chuchu, du collectif kényan The Nest, est l'un des créateurs de l'exposition.
Je pense que l'effet visuel le plus évident, ce sont des boîtes vides. Parce que quand vous allez dans un musée, vous ne vous attendez pas à voir des vitrines vides.
Les 10 vitrines symbolisent 10 objets du patrimoine kényan qui se trouvent dans les musées allemands. Pour compenser l'absence des objets historiques, des œuvres contemporaines sont exposées au-dessus des vitrines. Depuis 2 ans, Jim Chuchu et ses collègues kényans, allemands et français participent au programme international d'inventaire qui vise à recenser et à numériser les biens culturels kényans se trouvant hors du pays. En avril 2021, la base de données comptait déjà plus de 32 000 objets.
Le plan était de créer une database of Kenyan objects.
L'idée était de créer une base de données des objets kényans dispersés à travers les institutions culturelles du monde entier, car le Kenya ne sait pas où sont ces objets ni ce qu'ils représentent. Comment réclamer des objets si on ne sait pas à quoi ils ressemblent, ce qu'ils sont et où ils se trouvent ?
Si des pays comme le Royaume-Uni, les Pays-Bas ou la France ont commencé il y a quelques années à numériser leurs archives muséales, l'Allemagne ne s'y est mise que cette année et péniblement. La directrice du musée ethnographique de Cologne, Nanette Snoop, est particulièrement engagée dans ce processus. Après Nairobi, c'est dans son musée, le Rautenstrauch-Jost Museum, que l'exposition des inventaires invisibles s'est installée depuis le 28 mai.
À Nairobi, l'exposition racontait l'absence et l'amputation. À Cologne, elle montre l'opulence, l'abondance et raconte la muséification des objets et l'histoire des collections dans un contexte colonial ou de rapports de forces inégaux.
Le musée de Cologne présente la totalité de sa collection kényane, 82 objets acquis entre 1905 et 2006, principalement des objets du quotidien. À quelques exceptions près, la plupart n'avaient jamais été exposés jusqu'ici. Ce qui était invisible devient enfin visible.
In dieser Ausstellung geht es tatsächlich um koloniale symbolische Gewalt.
Dans cette exposition, on aborde vraiment la violence coloniale symbolique. Il s'agit de l'expérience traumatisante d'être dépouillé de son histoire, de son identité et de sa mémoire.
Gedächtnis hinterlassen habe.
Les objets exposés sont tous accompagnés de biographies élaborées conjointement par des universitaires de Nairobi et de Cologne. Celles-ci permettent de comprendre ce que représentent ces objets au Kenya, mais aussi pour les membres de la diaspora kényane en Allemagne. De son côté, Nanette Snoop du musée Rautenstrauch-Jost affirme qu'elle fera tout son possible pour restituer des objets de sa collection en cas de demande. Vue d'Allemagne, deuxième partie. En Allemagne, les enfants sont retournés normalement à l'école cette semaine. Cela faisait 8 mois que les cours étaient dispensés en demi-classe ou à la maison. Autant dire le soulagement pour les élèves comme pour les parents. Mais comparé à l'Italie, l'Allemagne s'en sort plutôt bien pour ce qui est des conséquences scolaires de la Covid-19. L'Italie, et en particulier le sud du pays, est l'un des pays européens les plus touchés par le décrochage scolaire. La crise sanitaire n'a pas arrangé les choses. En début d'année, l'ONG Save the Children tirait la sonnette d'alarme après 1 an de pandémie, estimant que 34 000 jeunes Italiens risquaient d'abandonner l'école. En Campanie, ils étaient déjà près de 30% à ne pas terminer le lycée avant la crise sanitaire. C'est dans cette région que notre correspondante Cécile Debarge a rencontré les maestri di strada, littéralement les professeurs de rue, qui tentent de remettre les décrocheurs sur le chemin de l'école dans les quartiers périphériques de Naples. Voici son reportage.
Éparpillés dans l'atelier de sérigraphie, des dizaines de sacs en coton sèche attendant d'être imprimés par le petit groupe d'adolescentes présentes.
Prends la peinture tout doucement. Vas-y, c'est le début. Super, fais demi-tour, voilà, comme ça.
Chira Maddaloni est professeure d'art plastique. Derrière une énorme presse à sérigraphie, elle guide la jeune Laetitia pour imprimer les fleurs noires qui étaleront leurs motifs sur un grand cercle orangé. Comme la plupart de la cinquantaine de maestri di strada, littéralement les professeurs de rue, elle enseigne dans les écoles des quartiers défavorisés à l'est de Naples. Le matin, les élèves qu'ils souhaitent sont invités à poursuivre les activités l'après-midi au sein de l'association.
Dans ma classe, il n'y a que Nancy et moi qui venons et beaucoup de nos copains à l'école s'intéressent à ce qu'on fait à force d'en entendre parler.
Laetitia a 12 ans, elle est l'une des près de 200 élèves à suivre les ateliers des maestri di strada contre une cinquantaine à peine avant le début de la crise sanitaire en mars 2020. Comme cette collégienne, beaucoup d'élèves y voient une bouffée d'air frais après des mois d'école à distance souvent difficile.
Ma mère disait qu'elle avait l'impression d'être dans une école. Mon frère suivait les cours dans une pièce, moi dans une autre, ma sœur dans une autre pièce encore et parfois les profs se plaignaient du bruit qu'il y avait à la maison.
Claudia a elle aussi suivi les cours comme elle a pu.
Avec les cours en ligne, tu as toujours des distractions. Entre ta mère qui t'appelle pour faire quelque chose ou bien ton téléphone, t'es distraite.
Rita, longs ongles bleus et chevelure platine, pouf de rire, elle le promet, cette année sans école, ou presque, a pour elle été reposante.
Rien, j'ai rien fait, je ne me suis pas connectée, je ne mettais pas de réveil. À la maison, quand tu vois ton lit, tu y restes et tu dors.
La collégienne fait partie de ces élèves qui ont décroché pendant la pandémie. Pourtant, elle vient sans rechigner aux ateliers de l'après-midi de l'association, un moyen pour elle de continuer à voir ses amis. Ces élèves décrocheurs, Chira Maddaloni et ses collègues ont tout fait pour leur tendre la main.
En réalité, nous n'avons jamais arrêté de voir les jeunes parce que, d'une certaine manière, ce sont eux qui sont venus nous voir en assistant aux ateliers. Mais la situation dans les classes a été très compliquée parce que les élèves les plus difficiles ne sont jamais connectés aux cours à distance.
La pandémie et la fermeture des écoles sont venues s'ajouter à une situation déjà difficile. Dans le quartier de Ponticelli, le taux d'abandon scolaire dans certains établissements professionnels oscille entre 30 et 60%, explique Cesare Moreno. Travailleur social dans le quartier depuis 1983, il a cofondé en 2003 l'association Maestri di Strada.
L'idée prévalente est que la dispersion scolastique fosse collegata.
On pensait souvent que l'abandon scolaire était lié à la misère économique. C'était faux. Les enfants de 8, 9, 10 ans ne quittaient pas l'école pour travailler, même il y a 40 ans. En réalité, c'était la pauvreté culturelle qui prévalait.
La vérité est que déjà allora agiva molto di più la povertà culturale delle persone.
Cette pauvreté culturelle, explique-t-il, c'est l'absence de rêve, d'initiative, un état quasi dépressif. Pour y remédier, les professeurs de rue misent sur une approche différente de l'enseignement.
Un professeur qui n'est pas retranché derrière son pupitre, mais qui va à la rencontre de ses élèves.
Par exemple, en pleine pandémie, Yvan Vaeretti, le professeur de musique, a imaginé un rap de la quarantaine, entièrement écrit, composé, mis en musique, chanté puis filmé par ses élèves.
On crée avec eux de vraies bases musicales, on aborde des thèmes qui leur sont proches, on essaie de les transcrire avec des rimes et bien sûr, c'est un travail qui se fait en lien avec les matières de l'école, l'italien, avec les rimes, la métrique. On fait aussi des parallèles avec les poésies qu'ils étudient.
Étudier sans s'en rendre compte, recréer un précieux lien social et surtout ouvrir de nouveaux horizons à ces jeunes, c'est la recette des maestri di strada, plus encore en cette période de pandémie. Dès le 3 avril 2020, 15 jours après le début du confinement, les professeurs de rue avaient distribué aux jeunes du quartier des colis pour l'esprit remplis de livres, de cahiers et de stylos. Cécile Debarge, de retour de Naples pour la DW.
Et c'est déjà la fin de Vue d'Allemagne. Merci à Cécile Debarge pour son reportage. Merci aussi à Annabelle Steffes pour le sujet sur la restitution. Et merci à vous, bien sûr, de nous suivre fidèlement. Si ce numéro de Vue d'Allemagne vous a plu, n'hésitez pas à le partager sur les réseaux sociaux. Vous retrouverez tous les numéros dans la médiathèque de notre site dw.com/français. La semaine prochaine, c'est Hugo Flotatalon qui sera à ce micro. D'ici là, portez-vous bien. Tchuss !